France Inter.
Fils de Philippe, fils de Brigitte et sœur de Esther et de Léna. Maintenant, je suis frère de.
Nous ne sommes pas jeunes de la même façon. Physiquement, intellectuellement, cérébralement. Intellectuellement, ça vous juge selon ce que vous pensez de ce que nous écrivons l'un et l'autre.
Un père qui nous aime certainement, j'espère bien, mais c'est pas gagné d'avance.
Moi, j'ai la jeunesse civile, chronologique et biologique. Mais je me sens beaucoup plus géologique que lui. Il est un esprit vif. Moi, je suis un champ de labour.
Une mère, c'est un lien qui est indélébile, qui est quelque chose de très très fort.
Toute cette semaine, dans l'heure bleue, une série spéciale intitulée « Transmission ». Depuis le début de la semaine, l'heure bleue vous invite dans le huis clos familial pour évoquer cette fameuse transmission. Ce soir, nous allons au cirque et nous sommes sur la piste avec Sampio et Francesco Buglione, fils et père directeur du cirque Buglione. Mais comme chaque soir, nous commençons en musique avec Sacha Distel, La Belle Vie.
Oh, la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. La belle vie, on est seul, on est libre et l'on traîne. On s'amuse à passer avec tous ses copains, des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. Mais la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on s'en lasse, on est triste et l'on traîne. Alors pense que moi je t'aime, et quand tu auras compris, réveille-toi. Je serai là pour toi.
C'est quoi la belle vie, Sampio Buglione?
Ben, c'est la vie que nous avons, nous, les gens de cirque. Dans le monde du cirque, on a, en comparaison à certaines professions, on a quand même une belle vie. On a une liberté dans notre travail que beaucoup d'entreprises n'ont pas. On est tenu par les horaires du public, mais entre-temps, on peut prendre la liberté que l'on veut. Et ça, ça n'a pas de prix. Et ça, c'est la belle vie.
Vous êtes né dans le cirque?
Ah ben oui. Mes parents, mes arrière-grands-parents faisaient du cirque, mes parents font du cirque, et moi je suis venu au monde au cirque.
Vous êtes venu au cirque ou vous êtes venu dans le cirque?
Je suis venu dans le cirque.
Ça veut dire quoi exactement?
Ma maman a accouché dans le cirque pratiquement. À cette époque-là, il n'y avait pas de clinique, il n'y avait pas de maternité. C'était les sages-femmes qui venaient directement soit à la caravane, soit à la maison.
Donc tout petit, vous étiez déjà dans ce cirque?
Ah oui. Oui, parce que mes parents ont pris le cirque d'hiver en 34 et moi je suis né en 38. Alors ils ont préparé tout pendant 4 ans pour que j'arrive.
Et quand vous êtes arrivé au monde, ils ont souhaité très fortement que vous ne quittiez pas le monde du cirque.
Non, il n'y a pas eu. On n'a jamais été obligé. Mais c'est un métier, quand on est dans ce métier, quand toute son adolescence, toute son enfance se fait dans le monde du cirque, quand on est à l'extérieur du cirque, on n'est pas perdu, mais on est un peu dépaysé. C'est une vie, nous avons une vie spéciale. On voit pas les choses de la même façon. On a un regard sur l'extérieur que l'extérieur n'a pas sur nous. C'est quelque chose de différent. Le cirque, c'est ma vie, c'est tout ce que je rêve de faire, c'est tout ce que j'ai envie de continuer de faire. C'est un virus qu'on a du mal à s'en passer. Puis on est tellement bien dans ce métier, c'est tellement... Il y a des joies, il y a des peines, il y a des satisfactions, il y a des moments terribles, il y a des moments formidables, il y a des moments de déception, il y a tout ce que concerne la vie en fin de compte. Mais c'est quand même pour nous la belle vie.
Le cirque, c'est un univers à soi tout seul. Il se contient lui-même et on n'a pas besoin d'extérieur.
On a toujours besoin de l'extérieur, mais notre univers, c'est le cirque. Quand on sort du cirque, si vous voulez qu'on part ailleurs, qu'on part, disons, 8 jours en vacances, ou qu'on part en Allemagne, ou en Italie, ou en Espagne, pour aller voir des attractions, pour aller voir des autres cirques.
Ah, parce que quand on sort du cirque, c'est pour aller voir d'autres cirques, au fond, alors.
Ah oui. Bon, on va aussi ailleurs, hein, on va un peu partout quand même. Mais on est content de revenir ici. Ça, dès qu'on quitte le cirque d'hiver, on a l'impression d'être, pas d'être exilé, mais il nous manque quelque chose.
Pourquoi? Parce que c'est un bateau, c'est une grotte,
c'est... Je ne sais pas l'expliquer, c'est très dur à expliquer, on se sent loin de notre sécurité. Pour moi, quand je suis au cirque d'hiver, je vis en sécurité, si vous voulez, je me sens bien. Je me sens à l'abri de tout, je n'ai pas envie de sortir. Je suis tellement bien dans le cirque, je suis tellement bien ici, que les journées se passent, je suis dans le bureau, je suis dans le cirque, d'un côté, de l'autre. Je n'ai pas envie d'aller dehors. Et quand je vais dehors, je m'ennuie. J'ai une maison à la campagne, quand je vais à la maison de campagne, que j'y reste en moyenne 3 jours, c'est long. On y va le vendredi, samedi, dimanche. Dimanche soir, dès qu'il est 5h, on a hâte de prendre la voiture et de revenir là. Et quand je reviens ici, que je rentre dans la cour avec ma voiture, je me sens bien.
Mais qu'est-ce que vous respirez de particulier ici, chez vous, au cirque d'hiver?
L'odeur du cirque. L'odeur du cirque, c'est sain, c'est propre, c'est... C'est quelque chose qui est accessible à tout le monde, le cirque. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose de merveilleux. Et quand on connaît vraiment le milieu du cirque, qu'on connaît le monde du cirque, on a du mal à s'en passer. D'abord, tous les gens qui ont fait du cirque et qui ont quitté le cirque, ils n'ont qu'une hâte, c'est de revenir au cirque. Et on voit beaucoup d'anciens artistes, d'anciens ouvriers qu'on a eus. Oh, qu'est-ce qu'on regrette d'être parti, qu'est-ce qu'on regrette de... Mais non, on s'ennuie, on est là, on tourne en rond... C'est un virus, ça. Quand on l'a, il s'en va pas. Hein. Et il n'y a pas d'antidote.
Comment vous pourriez décrire l'odeur du cirque? Alors, je vais poser la question au fils d'abord, et puis ensuite au père.
Ah, l'odeur du cirque, c'est une odeur. L'odeur du cirque, c'est une odeur spéciale. C'est déjà l'odeur de notre maison. C'est l'odeur de notre enfance. Souvent, quand ma femme me demande « t'es où ?», quand je dis « je suis à la maison », je suis au cirque d'hiver. Je ne suis pas dans mon appartement. Comme disait mon père, c'est un virus. Moi, quand je pars en vacances, bon, je pars beaucoup plus en vacances que mon père.
Ça se relâche.
Ça se relâche.
Les vieux au boulot et les jeunes se tirent. Voilà.
Mais c'est vrai que si je pars 2-3 semaines, quand on rentre, je m'arrête en premier au cirque avant d'aller dans mon appartement. C'est notre maison, on est tous ici. Bon, mon père habite ici, mon oncle habite ici. Nous, on est tous les cousins, frères, sœurs, on habite tous dans un rayon de 500 mètres. On s'éloignerait, on ne pourrait pas s'éloigner, c'est impossible, quoi. Il y a l'odeur des animaux, il y a l'odeur du pop-corn, il y a l'odeur de... C'est tout un ensemble. Et aussi, quand les spectateurs, les Parisiens viennent au cirque d'hiver, c'est ce qu'ils attendent, parce que ça leur rappelle leur enfance, ça leur rappelle... Le cirque d'hiver, c'est un lieu pour les Parisiens qui est ancré dans le cœur des Parisiens, parce qu'on y vient depuis des générations et des générations. On amène ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. C'est un lieu qui est attaché aux Parisiens et surtout à nous aussi.
Vous êtes né où, Francesco?
Alors moi, je suis né en Belgique. à côté de Gand, à Saint-Amandsberg, parce que bah, nous, on était, mon père avec ma mère étaient en tournée à cette période-là en Belgique. Donc moi, je suis né en Belgique.
Donc loin du cirque d'hiver, vous n'êtes pas arrangé, Sampio, pour que votre fils naisse aussi dans le cirque d'hiver et, comme vous-même.
Et madame n'était pas transportable.
Vous faisiez quoi à l'époque dans cette tournée, Sampio?
Un petit peu tout quand même. Je m'occupais de toute l'administration, je m'occupais de l'organisation, je m'occupais du montage du chapiteau, du transport, je m'occupais aussi du spectacle. Mes frères s'occupaient de la ménagerie, un de la publicité et un autre de la cavalerie.
Et votre femme?
Ma femme s'occupait de moi.
Elle s'occupait de moi.
Mais est-ce qu'on a le temps de s'occuper de ses enfants quand on appartient au monde du cirque?
Ben oui.
Elle a travaillé jusqu'à combien de mois de grossesse?
Pas 6-7 mois. 8 mois même.
Et pour vous, quand vous êtes devenu père, Sampio, c'était évident que votre fils allait rester dans cet univers du cirque?
Ben, évident,
vous ne posiez même pas la question?
Non, évident, non, mais je ne l'ai jamais obligé. Je ne l'ai jamais dit, tu feras ça, tu feras ça. Même mes parents ne nous ont pas obligés à faire ce métier. Si j'avais voulu m'en aller pour faire autre chose, mon père n'aurait peut-être pas été content, c'est sûr. Mais il ne nous aurait pas empêchés. Il ne nous a jamais dit, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Ou je ne veux pas vous essayer autre chose. Et je n'ai jamais dit à mon fils, non, arrête, on va monter un restaurant, on va monter un... Jamais, c'était son idée de faire du cirque. Alors lui, c'est un malade du cirque. Lui, il a le double virus. Il n'a pas un virus, il a le double. Lui.
Mais au fond, est-ce que vous l'avez choisi? Ou est-ce qu'il était dans vos gènes?
Non, je pense qu'il était dans nos gènes. C'est ce métier qui nous a choisi.
Et pourquoi et comment est-ce que vous pourriez décrire dans vos enfances respectives, d'abord honneur au plus jeune, à Francesco?
C'est ce que mon père disait tout à l'heure, quand on est dans ce milieu, quand on vit dans ce milieu, on rencontre des gens extraordinaires, on côtoie des artistes, on côtoie des stars, on a envie de faire comme ses parents. Quand on voit les parents travailler en piste, ben on a envie de faire comme eux pour être applaudis comme ils sont applaudis. Et c'est vrai qu'on a des enfances qui sont extraordinaires parce que il y a tous ces gens, ces grands artistes de cirque qu'on rencontre, mais il y a aussi toutes les stars qui viennent régulièrement au cirque d'hiver. Nous, enfants, c'était normal de connaître Jean-Paul Belmondo, de connaître Alain Delon, de connaître Johnny Hallyday qui venait régulièrement au cirque d'hiver. On côtoyait régulièrement des gens que la majorité des Français ne verront jamais, n'approcheront jamais. Et c'est vrai que c'est un milieu pour nous privilégié, c'est un milieu ouvert, parce que beaucoup de personnes pensaient à une époque que le monde du cirque était un monde fermé. Pas du tout, parce qu'on n'est pas obligé de naître dans un cirque pour faire du cirque. On n'est pas obligé d'être issu d'une famille de cirque pour faire du cirque. Le cirque est ouvert à tout le monde. Après, il faut faire ses preuves, ça c'est dans tous les métiers. Hein. On peut pas arriver en disant je suis le meilleur, il faut le prouver. Hein. Qu'on soit ici du monde du cirque ou pas ici du monde du cirque. Et c'est vrai que quand on grandit comme ça, puis on a une liberté qui est extraordinaire, mais artiste aussi, c'est un métier d'art, de création, on a du mal à imaginer de faire autre chose. Hein.
Sampio, vous pourriez décrire votre petite enfance et par qui vous avez été élevé et ce que vous faisiez le long de la piste, dès l'âge de 2-3 ans, vous aviez accès à la piste?
Non, beaucoup plus tard, moi, beaucoup plus tard. J'ai commencé dans le métier, disons, j'avais 7 ou 8 ans.
Mais, dites donc, c'est quand même jeuneau, hein, 7 ou 8 ans.
Ouais.
Mais vous aviez eu le temps de regarder les autres évoluer sur la piste?
Je les voyais toute la journée. Parce que dès qu'on sortait de la caravane, notre seul endroit qu'on pouvait aller, soit c'était jouer l'après-midi quand il n'y avait pas séance, mais dès qu'il y avait séance, on allait directement voir le spectacle. Il se passait pas une séance sans qu'on soit dans le cirque pour voir. On pensait pas du tout à autre chose, ou d'aller voir dehors, aller voir les artistes, regarder les artistes s'entraîner. On essayait aussi de faire quelque chose. Alors il y a des artistes avec qui on parlait. Tiens, regarde, tu veux m'apprendre à faire un équilibre? Tu veux m'apprendre ça? Tu veux m'apprendre ça? Alors, selon pour les choses qu'on était doués, les artistes nous aidaient à faire. Puis après, on commençait par l'alphabet du cirque, si vous voulez.
C'est quoi l'alphabet du cirque?
Et de plus en plus. Alors, il y en a qui ont choisi les animaux, d'autres qui ont choisi le trapèze, d'autres qui ont choisi la voltige. Il y a plusieurs disciplines après. C'est la discipline qui nous choisit, comme disait mon fils. On n'a pas choisi le cirque. C'est la discipline qui nous choisit. Je pense qu'on est à l'aise de faire ce qu'on a la possibilité de faire.
Et chacun d'entre vous a eu la possibilité d'aller vers la discipline qui lui plaisait le plus.
Oui, oui.
Comment vous l'avez choisi, votre propre discipline?
Ma propre discipline, moi d'abord au départ, je faisais l'artiste, j'ai fait le montage du cirque. Vous savez, dans notre profession, il faut tout faire.
Et savoir tout faire.
Et savoir tout faire. Mon père nous disait toujours, si un jour tu deviens patron du cirque, que tu commandes quelqu'un et qu'il te dit, monsieur, je sais pas faire, faites-moi voir, que toi tu sais pas le faire, tu passeras pour un con. Alors, il nous a mis partout. On a été dans tout. On a été afficheur, électricien, monteur, chauffeur, soigneur, mécanicien. Enfin, on a appris toutes les branches de métier. Mécanicien, c'est parce qu'il m'emballait le plus. Mais on l'a quand même fait parce qu'on a appris à conduire les camions. On a appris à démonter les moteurs, à remonter dans la nuit. Avec le personnel, avec les gens, on était avec eux. On travaillait autant qu'eux.
Et le fait d'être né Bouglione et de porter ce nom n'autorisait pas de passe-droit pour vous?
Au contraire. Mon père n'aurait pas toléré qu'on ait un passe-droit. D'abord, nous, on était plus mal, si vous voulez, plus mal lotis que les employés. Et s'il va vous choquer, je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Le métier d'artiste, moi, personnellement, je n'ai jamais aimé. Je l'ai fait. J'ai présenté le spectacle pendant des années en tant que monsieur Loyal. Je n'aimais pas ça. Je l'ai fait parce qu'il fallait le faire et je le faisais avec beaucoup de plaisir. De toute façon, je le faisais pas à contre-cœur. Après, j'ai présenté les éléphants, j'ai fait des numéros de clown avec mes frères.
Ça vous plaisait plus?
Ça me plaisait pas.
Moi, ça
qui me plaisait, c'était l'organisation. C'était l'organiser la troupe, organiser le montage, le démontage, les convois sur la route, l'affichage, la publicité. Quand il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le cirque, j'étais là pour dire, allez, on va faire comme ça, comme ça. C'était ma place. Ça, c'était ma vie. Moi, ma vie dans la piste, c'était pas ma vie. Moi, ma vie, c'était tout ce qu'il y avait autour du cirque.
Qu'avez-vous appris à votre fils, Francesco?
Rien. Il a tout appris tout seul. En regardant les autres faire, comme moi, j'ai fait. Comme on a tous fait dans notre métier. On a toujours été apprendre à travailler ensemble.
C'est quand pas un peu étouffant par moment d'être toujours en famille comme ça?
Non, quand une famille s'entend pas, ça doit être très embêtant. Mais comme une famille est soudée comme la nôtre, que tout le monde s'entend bien, c'est pas du tout au contraire.
Et vous, Francesco, qu'avez-vous appris de votre propre père, Sampeo?
Ben tout.
Voilà. Les avis divergent.
Ben, c'est-à-dire, quand je travaillais, Francesco était à côté de moi. Quand j'étais dans le bureau, il était là. Quand j'étais dans le cirque, il était à côté de moi. Après, il a commencé à travailler, après il a commencé à apprendre le jonglage, après il a commencé à apprendre à conduire, après il a commencé à apprendre à monter le cirque, après il a commencé à faire de l'acrobatie équestre. Mais tout ça, c'est en regardant tout le monde. Et on est dans le métier. Quand on est dans ce métier-là, on peut pas rester indifférent. De l'autre côté de la piste, il n'y a rien à faire. Il y a quelque chose qui nous tire. On dit, allez, venez. Et quand on voit faire les autres, c'est facile après d'essayer de le faire. Bon, on ne le fait pas aussi bien tout de suite, mais après on se perfectionne.
Comment votre père, Francesco, vous a guidé dans l'éveil de votre discipline et des différentes disciplines que vous avez épousées à l'intérieur du cirque?
Au début, il nous donne des conseils comment faire, mais c'est vrai aussi qu'on apprend avec un professeur et puis on se perfectionne aussi souvent tout seul. Hein. Il y a beaucoup de moi j'avais choisi le jonglage. Le jonglage c'est une discipline solitaire où on passe des heures tout seul. Mon père m'a appris à moi et aussi à ma sœur. Il nous a plus guidés. Fais comme ci, fais comme ça. Et puis bon, après de le voir faire, de le connaître, ça nous donnait déjà des chemins, des directions pour le travail. Hein.
La vie de cirque ne s'apprend pas à l'école. On n'a pas besoin d'aller à l'ENA pour faire le cirque. C'est pas notre métier, nous, il se vit sur place. Un enfant qui est avec nous, c'est comme un maçon, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Un artiste de cirque, c'est pareil. Quand on commence l'alphabet du cirque, il touche un peu à tout.
Mais c'est un don ou c'est une succession d'expériences?
Non, c'est pas un don.
C'est pas un don.
Il n'y a pas de don. il n'y a que du travail dans le monde du cirque, mais dans beaucoup de choses comme ça.
Je veux dire que n'importe qui pourrait devenir ce que vous êtes.
Je pense, oui, c'est qu'une question d'éléments où on est.
Il y a, contrairement à ce qu'a dit mon fils, il y a des artistes qui ont des dons pour ce qu'ils font. Par exemple, on avait il y a 2 ans avec nous un numéro d'éléphant qui s'appelait les Casselli, et il y avait le fils Casselli qui travaillait sur les éléphants. On aurait dit qu'il était né sur les éléphants. C'est vraiment dans le dressage des éléphants, dans l'acrobatie sur les éléphants, c'est le numéro 1 dans le monde. Il n'y en a qu'un et il n'y en a pas. Il y a eu Günther Goebbels qui était chez Barnum, qui était chez nous à un moment donné. Mais pour moi, il y a eu Günther Goebbels et Casselli. Ils ont la facilité. C'est peut-être pas un don, mais c'est la facilité. Tout ce qu'ils font, ça réussit. Ils sont nés sous la bonne étoile, où il y a eu quelque chose, et eux, ils sortent du lot.
Je vous propose d'écouter la voix de votre mère, Sampio, Rosa. Oui. Rosa qui va parler de son enfance dans les caravanes et qui va parler du cirque. C'est l'extrait d'un entretien au cirque d'hiver qui avait eu lieu le 2 janvier 2012. Je rappelle que votre mère est morte au mois d'août l'année dernière, à l'âge de 108 ans, la doyenne du cirque.
Je suis née dans une roulotte. C'était des caravanes tirées par des chevaux. Là, c'était la ménagerie de mes parents, puis la ménagerie de grand-père.
Qu'est-ce que vous faisiez? Vous dansiez, vous?
Danser dans la cage.
Vous dansiez devant les fauves?
Dans la cage, devant les fauves. Il y avait papa qui tenait les lions en respect. Moi, je rentrais dans la cage et je dansais.
À partir de quel âge?
14 ans, 15 ans. Moi, je rentrais dans la cage comme j'aurais rentré dans ma caravane.
Et lorsque vous arriviez dans les villages, les gens du voyage n'avaient pas bonne réputation?
Ben non, je vois pas pourquoi.
On disait que c'était des voleurs de poules,
oui,
d'enfants.
Des voleurs de poules. On n'a jamais volé des poules. On n'a jamais volé des enfants. On avait nos enfants, on n'avait pas besoin de voler des enfants. On les laissait dire, vous savez.
Et un jour, vous avez rencontré l'homme de votre vie.
Ah oui.
Joseph Bouglione.
Ça a été quelque chose. Oui. Ça a été quelque chose.
Ça a été un coup de foudre?
Comment?
C'était un coup de foudre?
Un coup de foudre, oui. Il était toujours habillé avec un grand chapeau, des bottes, des culottes de cheval, l'aspect d'un cow-boy.
Que vous a apporté Rosa dans votre existence, Sampio?
Trouvez-moi la question, mais prenez pas de ma mère.
Alors peut-être on va poser la question à Francesco pour sa grand-mère. Quels souvenirs vous en gardez? Qu'est-ce qu'elle vous a transmis, votre grand-mère Rosa?
Elle nous a transmis l'amour de ce métier, l'amour du cirque. Elle a passé sa vie à faire attention à ses enfants, à ses petits-enfants. Elle a toujours été là. Cette année, c'est la première fois depuis 1934 que les Bouglione sont là, où il y a une saison qui redémarre sans elle.
Est-ce que vous avez, Sampio, l'impression que vous perpétuez une tradition familiale qui appartenait à votre mère, mais votre mère la tenait aussi de ses propres parents? Est-ce que vous avez cette impression de continuité à travers les générations?
Oui, tout à fait. De toute façon, ce que mes grands-parents ont appris à mes parents et qu'ils ont appris à nous, nous, on le transmet à nos enfants, qu'ils le retransmettront aux leurs. Et dans toutes les familles d'artistes, c'est la même chose. Et dans toutes les grandes familles de cirque, ça se passe de la même façon.
Nous, ce qui est différent aussi des autres familles, c'est que la famille Bouglione a racheté le cirque d'hiver en 1934. On est là depuis 1934. Le cirque d'hiver, c'est un lieu, comme je disais tout à l'heure, les Parisiens viennent depuis des générations, mais le cirque d'hiver, c'est le plus ancien cirque du monde. C'est pas parce que c'est celui de la famille, mais c'est le plus beau. Les plus grands y sont passés, les plus grands continuent à y passer. C'est un cirque qui a une histoire extraordinaire. Julie Otard a inventé le cirque d'hiver a inventé le trapèze volant dans ce lieu. C'est un lieu mythique pour les gens qui aiment le cirque, mais pas seulement en France. Donc c'est vrai qu'on perpétue une tradition. Vous savez, le cirque d'hiver, s'il n'appartenait pas à la famille Bouglione, je pense que ça ferait longtemps qu'il aurait été transformé en parking ou en immeuble.
À une époque, il devait être transformé en hôtel.
Mais grâce à la famille, il est toujours resté un cirque. On a la tradition, nous, familiale, à perpétuer, mais il y a aussi ce lieu extraordinaire à faire continuer, à faire vivre, et pour ça encore pour des générations et générations.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez cette semaine consacrée aux transmissions, à la filiation, en compagnie de Sampio et Francesco Buglione. Nous allons écouter Prince, Purple Rain.
Bye.
C'est vous oui. l'auteur de ce
oui.
choix.
Oui, c'est pas
c'est
mon
pas
père.
Tellement, c'est pas tellement dans la tradition du cirque, dites-moi, Prince.
Ben non, mais c'est dans super, la tradition. Mais... vous savez, je ne vis pas avec un costume à brandebourg et je n'écoute pas des marches militaires toute la journée. et je ne me promène pas à cheval. Et je ne me promène pas à cheval dans Paris. Hein.
Ils ne connaissent pas la bonne musique.
Voilà. Non, non, c'est...
Pourtant, je leur ai appris la bonne musique.
Hein, là, vous voyez, les pères sont toujours trahis par leurs enfants.
Ça ne sert à rien d'apprendre, vous voyez.
Alors, souvent, il y a une... c'est peut-être un cliché dans la langue française, mais on dit la famille du cirque. Est-ce que c'est vrai, cette expression? Et qu'est-ce qu'elle recouvre, à vos yeux, Sampio?
Peut-être répondre Francesco à ma place.
Vous êtes bien prudent pour un père, hein, alors on va demander au fils, Francesco.
Bah, c'est vrai qu'on dit toujours la grande famille du cirque, et c'est vrai. Alors, c'est pas que tout le monde s'aime, tout le monde s'adore, et on est très solidaires entre nous. Demain, je peux aller dans n'importe quel cirque dans le monde, vu qu'on a la même vie, la même passion, on aime les mêmes choses aussi. On est tout de suite accueillis, comme si on faisait partie de la famille. Et c'est réciproque quand d'autres familles de cirque, soit allemandes ou américaines, viennent nous voir ici. On est toujours solidaires, soit on va manger un bout ensemble après le spectacle. C'est vrai qu'il y a une grande, grande fraternité entre les gens de cirque.
Nous allons écouter la voix de Annie Fratellini à propos de la sévérité de son père, Victor, qui était clown et trapéziste. C'est une archive INA du 20 février 1962.
Votre père était assez sévère avec vous.
Très sévère. Alors plus tard, ça a été la question éducative a été assez dure. Donc je suis allée à l'école et là, c'est à partir de là que je n'ai pas eu aucun ami, aucune amie. Je n'avais pas le droit de sortir. Mais mes autres cousins avaient le droit. Et je ne sais pas, mon père avait ce côté très sérieux, l'italien également. C'est à peu près le seul d'ailleurs dans toute la famille. Maintenant, je ne le regrette pas du tout. D'ailleurs, je lui en sais gré. Mais à l'époque, ça m'était assez difficile de travailler, car j'ai travaillé vraiment très dur. Plus dur peut-être que tous mes cousins et cousines. Donc quand on a d'autres exemples, vous êtes un peu déçus. Parce que je sortais de l'école et en plus de ça, j'apprenais à partir de 10 ans, même avant. J'ai commencé à apprendre, j'avais déjà l'acrobatie, les claquettes et la danse classique. Et j'ai commencé à apprendre le solfège, le piano, le violon, le saxophone, le xylophone. Alors, ça peut paraître très amusant, mais tout de même, ça représente la sortie de classe à 4h30, la rentrée chez vous 5h moins le quart, et puis alors là, une demi-heure de solfège, une demi-heure de piano, une demi-heure de violon, une demi-heure de saxophone, une demi-heure d'acrobatie, tous les jours. Et c'est pas tous les jours très drôle, je veux dire, j'avais quelques fois... Heureusement, j'ai une petite fille sérieuse, donc ça ne m'a pas manqué consciemment, mais sûrement inconsciemment, ça m'a...
Alors, Sampio Buglione, vous disiez tout à l'heure que vos parents vous avaient appris, mais qu'eux-mêmes avaient appris de leurs propres parents. Annie Fratellini, elle a appris, mais c'était rude. Alors que, à vous entendre, on a l'impression que la transmission des valeurs familiales, elle s'est faite quand même dans un accompagnement constant et dans une sorte de respect des valeurs et de douceur.
Oui, mais le cas d'Annie Fratellini est tout à fait différent. Parce que Annie Fratellini, au départ, ne souhaitait pas faire du cirque. Elle voulait être dans la chanson, elle voulait faire de la musique. C'était son truc, de vouloir chanter et de vouloir danser et de faire de la comédie. Elle voulait faire de la comédie musicale. Elle était plutôt orchestre, plutôt chanteuse d'orchestre. C'était ce qui lui plaisait beaucoup. Et ses parents l'ont obligée à apprendre le cirque. Et c'est sur le tard... C'est sur le tard qu'Annie Fratellini est venue au cirque. Parce qu'elle s'est rendue compte, elle a vu que c'était quand même un métier formidable et que malgré c'est toutes ses racines qui se sont mis à ressortir et qui l'ont ramenée vers le cirque. Mais elle est venue très tard au cirque. Et c'était pas, au départ, c'était pas ce qu'elle souhaitait faire. Et c'est pour ça, pour elle, que ça a été difficile. Parce que quand on veut vous apprendre un métier que vous n'avez pas envie de faire, ben je trouve que ça doit être la chose la plus atroce, désagréable qu'il peut y avoir.
Le cirque est-il un métier ou une vocation? Je pose la question au fils, à Francesco.
Pour moi, c'est plutôt une vocation.
Mais vous n'auriez pas connu le cirque des Volanges, si j'ose dire. Vous
Alors
auriez
moi,
été au cirque à 7-8 ans, comme la plupart des enfants, quand ils ont de la chance de pouvoir aller au cirque. Vous auriez quand même choisi le cirque ou ce genre de question est-elle très difficile à imaginer?
Non, elle n'est pas difficile à imaginer. Parce que moi, si je n'avais pas fait ce métier, ça aurait été dans la restauration. Ces deux métiers me plaisaient. Ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Vous savez, quand on est dans ce milieu...
Quand on est né à
naître. Mais c'est comme des enfants de comédiens, c'est comme des enfants de chanteurs.
Je pense que c'est plus fort, non? Les enfants de chanteurs ou les enfants de comédiens. Parce que vous l'avez dit en début d'émission, c'est quand même tout un univers. Vous avez parlé des codes, vous avez parlé, Sampio, de l'alphabet du
cirque. Oui, mais c'est peut-être plus fort chez nous, parce que nous, quand on travaille, quand mes parents travaillaient avec le cirque, on était là. Mais quand les chanteurs vont faire des galas, vont travailler dans toute la France, ils n'emmènent pas la femme et leurs enfants avec eux. Donc les enfants, ils viennent dans le métier beaucoup, beaucoup plus tard. Quand ils ont fini leurs études ou des choses comme ça, et ils viennent avec le père ou ils viennent avec les parents. Tandis que nous, on a été dans le bain dès le début. Mais ces jeunes-là n'ont pas eu l'éducation du spectacle que l'on a eu nous et du cirque que l'on a eu nous. Oui, papa, ah ben il est en concert à Lyon. Ah, papa, où il est? Il est en concert à Marseille. Mais le fils, c'était toujours à Paris. C'est différent. Il n'y a qu'après, quand les enfants d'artistes ont choisi de faire ce métier-là, qu'ils sont rentrés dans le métier. Mais ils n'y sont pas rentrés tout petits. Et c'est peut-être ça qui fait que nous, dans le cirque, on a peut-être plus l'amour, la facilité et l'envie de perpétuer ce métier.
Le risque, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Sampio Buglione, le risque.
Le risque, c'est un risque permanent.
Permanent,
on est
pour
toujours...
Pour tous les numéros,
pour même la vie dans le cirque est un risque. Pendant le montage, pendant le démontage, pendant la représentation, il peut toujours se passer quelque chose. Sur la route, avec les convois, on branche l'électricité, il peut y avoir un tableau électrique qui prend feu, il peut y avoir... Il y a des tas de choses. On est dans le danger perpétuel, on est dans le risque perpétuel. On est habitué à ce danger et on passe à côté, on ne le regarde même plus. On sait que les trapézistes, il y a toujours un danger. Actuellement, au Cirque d'Hiver, nous avons un numéro qui est très très beau de trapèze. Pendant un moment, ils font des exercices. Croyez-moi, à chaque fois, j'ai peur. Mais c'est notre métier, c'est notre vie. On a choisi de vivre dans le risque, dans la peur, dans l'anxiété.
Francesco, oui, on est.
C'est le sel du métier.
C'est le sel, c'est le poivre, c'est le. On prend des risques, mais nos artistes, c'est pas des cascadeurs, c'est pas des têtes brûlées. Ils savent ce qu'ils font. C'est des risques calculés, mais il y a jamais zéro risque. Ça arrive pas. Mais c'est vrai qu'on est habitué depuis toujours. Bon, bah, quand on est trapéziste, qu'on travaille à 15 mètres du sol, bah oui, il y a un risque.
Ce que vous avez fait.
Non, moi non.
Vous êtes resté au sol.
On est toujours resté au sol.
Quels sont les risques que vous avez affrontés?
Bah, les risques qu'on a affrontés, j'ai travaillé dans un numéro d'acrobatie équestre. Bah, on peut tomber, on peut se faire piétiner par les chevaux, on peut, il y a toujours,
Un acrobate équestre, comme, il travaille à cheval. Il fait une mauvaise chute, il tombe sur le bord de piste. Il se casse la colonne vertébrale, il est infirme pour sa vie. C'est minime comme chose, c'est pas, hein, il fait le senteur de piste debout sur le cheval fait un écart, il tombe sur la, il ne peut pas se rattraper, il tombe sur le rebord de piste. Mais il y a le risque est partout. Mais on est élevé avec le risque, on est habitué.
Et vous, quels sont les moments où vous avez eu l'impression de vous mettre le plus en risque, Sampio?
Non, j'ai jamais eu cette impression.
Toujours
sécure. Parce que j'ai jamais fait de trop de choses.
C'est quand il rentrait pas le soir à la maison, il avait peur de ma mère. C'était là voilà. Qu'il se mettait en danger.
J'avais une peur, vous ne pouvez pas savoir. J'avais une peur, mais alors. J'avais tellement peur que je ne rentrais pas. Par exemple, je me rappelle la première fois que je suis rentré dans une cage au lion, c'était avec un de mes oncles qui s'appelait Firmin. On pouvait l'appeler le seigneur de la jungle. Dès qu'il voyait un tigre, un lion ou un éléphant ou une panthère, tout de suite il vous disait celle-là elle est bonne, celle-là elle n'est pas bonne, celui-là il fera ça, celui-là. Et d'abord, tous les animaux, quand ils rentraient dans la ménagerie, ils étaient tous pratiquement garde à vous dans les cages, et ils le regardaient comme c'était le bon Dieu qui arrivait, quoi. Et ils connaissaient tout. Et quand ils mettaient un dompteur dans une cage, il était sûr qu'il ressortirait. Il n'aurait jamais fait entrer un dompteur qui paraît risqué. Et moi, j'avais à l'époque, je devais avoir 12-13 ans, et il était en train d'entraîner des lions dans la cage. Et je passe autour de la cage et je regarde. « Tu veux rentrer avec nous ?»« Ben oui. T'as peur ?»« Ben, mon oncle, si tu me dis que je peux rentrer, je rentrerai avec plaisir et en confiance. » Et je suis rentré dans la cage, je suis resté avec lui dans la cage un quart d'heure, 20 minutes, il m'a fait faire 2-3 exercices, et je suis sorti de la cage. Mais ça n'aurait pas été mon oncle, je ne serais pas rentré. Parce que j'avais pas les bases, j'avais pas les données, j'avais pas le... Mais je savais qu'avec lui, il m'aurait rien arrivé. Et là-dessus, on a une anecdote qui est véridique. On avait un dompteur qui est arrivé chez nous. Il devait avoir 14 ou 15 ans. Il est reparti de chez nous, il devait avoir une trentaine d'années. Et il avait, pour les animaux, et mon oncle Firmel l'avait appris à être dompteur. Il travaillait avec des tigres. Mais les tigres qu'on lui avait mis, mon oncle Firmin, il savait très bien qu'il n'y aurait jamais rien arrivé. Parce que son niveau de connaissance à ce jeune homme n'était pas encore assez fort. Et un jour, je ne sais pas, ils se sont disputés, je ne sais pas pour quelle raison. Et ce garçon vient et dit à mon oncle, écoutez, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Ah, mon oncle dit, écoute, tu veux t'en aller, va-t'en. Oui, j'ai trouvé du travail dans un autre cirque et je gagne beaucoup plus et je m'en vais là-bas. Mon oncle lui dit, tu sais, méfie-toi. Tu travailles chez nous ici, on sait les lions et les tigres qu'on t'a donnés. Tu vas là-bas, tu ne sais pas ce que tu vas avoir. Méfie-toi, fais attention. Non, non, mais moi je sais, ça fait des années que je travaille avec vous. Je sais, je connais les animaux. Je te préviens, fais quand même attention. Il était en Angleterre. Le premier jour qu'il est rentré dans la cage, les lions l'ont chopé, ils l'ont dévoré. Parce que ceux qui avaient les propriétaires de ces animaux ne les connaissaient pas comme mon oncle les connaissait. Et quand il faisait rentrer quelqu'un dans la cage, il savait avec ce qu'il faisait. Et ça, c'est le métier, c'est ça. Il ne donnait pas à manger ni à boire aux animaux tant qu'il n'était pas là. C'était sa passion. On ne pouvait pas lui apprendre quelque chose sur les animaux.
Qu'apprenez-vous de votre propre fils, Sampio ?
Qu'il a osé faire des choses que moi, je n'aurais peut-être pas fait.
Par exemple ?
Rouler en moto, déjà. Ça, c'est... Mon père n'a jamais voulu qu'on ait une moto. Ni une moto, ni un scooter. Il a quand même une petite voiture qui est pas mal, mais monsieur préfère la moto. Ça ne me plaît pas du tout.
C'est pas ça que tu as appris de moi ?
Non, c'est pas ça que j'ai appris, heureusement. Mais j'ai appris de lui beaucoup de choses que j'ai été très surpris de voir comment il a évolué dans notre métier, comment il a évolué dans l'administration du cirque, comment il dirige la maison, parce que maintenant c'est lui qui dirige, c'est plus moi. Moi je suis le...
Vous êtes le gardien du temple.
La roue de secours. Non, je ne suis plus dans le... Je laisse tout faire à mon fils et à mes neveux.
Mais en même temps, vous êtes toujours là.
Oui, je suis toujours là. Mais vous savez, ils travaillent, ils font bien leur travail, ils font ce qu'il faut, ils s'occupent bien de leur métier, ils dirigent bien leur entreprise. Qu'est-ce que moi je vais venir leur dire ? Vous savez, moi à l'époque je faisais comme ça, moi je faisais comme ça, nous, c'est plus valable, c'est fini ça. Comme disait un acteur que j'ai connu il y a très longtemps, l'expérience est un peigne que la vie vous prête quand vous êtes chauve. Alors, ça sert à rien. Il y a des nouvelles façons, il y a une nouvelle vie, c'est le cirque que j'ai connu moi, et le cirque qu'ils font eux, c'est plus le même. Donc moi j'ai des repères, bon, il y a des moments je leur dis, attention, ça c'est quand même dangereux, attention, faites pas ça. Mais je sais pas si vraiment ils m'écoutent.
On lui dit oui.
Pour me faire plaisir, voilà. Alors maintenant je dis plus rien.
Comment vous le définiriez ce nouveau cirque alors, hein, Francesco ?
Bah, les recettes sont un peu quand même...
L'alphabet du cirque, on le conserve, comme a dit Sampio.
L'alphabet du cirque, on le conserve. Ce qui faisait recette il y a 50 ans, bah, ça marche toujours encore, ça marche maintenant. Le cirque a connu une grande évolution, que ce soit avec la lumière, avec l'orchestre, avec les effets scéniques, avec les danseuses, avec la durée de spectacle, le rythme, la mise en scène. Le cirque a beaucoup évolué. Mais il faut pas oublier le principal qui reste quand même avant tout la performance. Et quand on vient au cirque, on vient pour voir une performance. Il faut que ça soit bien habillé, mais il peut pas y avoir que de l'habillage. On ne peut pas tout reposer sur l'orchestre, sur la lumière, sur les effets scéniques. On vient pour voir un triple saut périlleux, on vient pour voir des exploits. On vient au cirque pour aller voir des exploits. Il ne faut surtout pas oublier ça. Et cette alchimie entre aussi tradition, modernité et performance, ben, qui fait que le cirque reste un spectacle magique et qui sera toujours, qui fera toujours briller les yeux. On dit souvent des enfants, mais le cirque, c'est pas pour les enfants. Le cirque, c'est un spectacle où on peut y emmener les enfants, mais c'est principalement pour les adultes qui ont su garder leur âme d'enfant. Et ce qui est magique dans le cirque, c'est que c'est le dernier spectacle populaire, au sens noble du terme, et c'est le dernier spectacle familial, où on vient, les grands-parents peuvent emmener leurs petits-enfants, où tout le monde sera content, parce qu'il y a des spectacles, c'est soit que pour adultes, soit que pour enfants, mais il y a très peu, il y a pratiquement pas de spectacle à part le cirque, où toute la famille va prendre du plaisir. Souvent, ça veut être soit la corvée d'emmener les enfants, mais pas au cirque, parce que tout le monde aime le cirque, tout le monde a été au cirque. Et c'est vrai que c'est un spectacle, c'est une vie, un spectacle qui est extraordinaire.
Vous avez des enfants ?
J'ai deux enfants, oui.
Ils font quoi ?
Ben pour l'instant, ils font des études. Mon fils fait aussi de l'acrobatie. Bon, ma fille est trop jeune parce qu'elle a 9 ans, donc
c'est encore jeune. Vous avez commencé à cet âge-là ?
Oui, vers les 9-10 ans, mais bon, là, je la laisse un peu tranquille pour le moment. Mais mon fils, pareil, je l'oblige pas à faire ce métier, mais c'est ce qu'il aime, c'est la vie qu'il aime. Pour lui, les heures de répétition, c'est l'école. Une fois qu'il est ici, c'est pas de la répétition, c'est du plaisir. Hein. Il y a toujours les enfants de la famille qui participent, soit au final, et qui font toujours des petites choses. Ce qui est rarissime, c'est que l'autre fois, il y a un de mes neveux qui a été puni, qui ne fait pas le final.
Pourquoi ? Parce qu'il avait fait une grosse bêtise.
Parce qu'il avait fait des bêtises. Mais pour lui, c'était je suis puni, je ne fais pas le final. C'était ce qu'il y a de c'est, je pense que c'était ce qu'il y avait de pire. Il a 5-6 ans, et pour lui, pas faire le final, c'était quelque chose de terrible.
Ben avec vous, on fait le final, alors, Sampio.
Oui, je voudrais finir sur quelque chose que mon fils m'a appris, de le regarder travailler, de le voir faire son organisation, sa façon de travailler, sa gentillesse avec le personnel, parce que tout le personnel l'adore. Je dis pas ça parce qu'il est là. C'est dur de faire des compliments, parce que j'ai pas l'habitude. Et j'en m'en ai jamais fait, de toute façon. Mais j'ai appris avec lui que c'était un homme courageux, un garçon droit, honnête, qui se sacrifierait pour toute sa famille, qui a fait passer sa famille, son travail, avant sa santé. Et il m'a appris, au cours des années, à être fier de lui. Et je suis très fier de mon fils.
Bon, en tout cas, merci infiniment à vous
et
deux.
Et il y a une dernière chose que je voudrais rajouter.
On va aller descendre 120 minutes.
tant pis, il ne fallait pas m'inviter. Hein. Vous savez qu'avant de vouloir faire du cirque, je voulais être avocat. Alors, vous voyez, c'est pour ça. Et alors, la première chose qui compte, qui a tout changé dans beaucoup de choses, j'ai dirigé le cirque d'hiver pendant des années et des années. Et un jour, ils sont venus me voir, mon fils et mes neveux. Tonton, papa, on veut faire du cirque, on veut faire du cirque. Première année, j'ai dit non. Deuxième année, j'ai dit non. Puis un jour, je dis quand même, faut les laisser faire. Alors je leur ai dit, écoutez, je vous donne le cirque d'hiver, mais je vous donne pour 3 ans. Si au bout de 3 ans, vous n'avez pas fait d'épreuve, je reprends le cirque d'hiver. Et on fera ce que je veux, moi. Ça fait 20 ans qu'ils ont le cirque d'hiver, et ça fait 20 ans que je suis très content. Voilà. Et heureux.
Ben merci, Sampio. Merci à Francesco aussi. Ouais.
C'est pas une belle fin, ça. Je dis que c'est la belle vie. Vous voulez pas me croire.
La belle vie. Ben merci beaucoup.
Et ben non, merci à vous.
Que j'ai trahi, alors je ne bronche pas. Si jamais on me que j'ai menti, alors je ne relève pas. Car le jour viendra de répondre de mes actes, et je ne me cacherai pas. Oui, le jour viendra de respecter le pacte, et lui seul m'entendra. J'en parlerai au diable si l'heure vient à sonner. De m'asseoir à sa table et dire ma vérité. J'en parlerai au diable, il saura m'écouter. L'innocent, le coupable, l'homme que j'étais. Si jamais on me dit ça, tu le mérites. Je l'ai sûrement cherché, que j'ai trop flirté avec les limites, je ne vais pas le nier. On sort de la piste, on reprend l'espoir, en avance plus ou moins droit. Et c'est en soliste que je lui dirai mon histoire, et j'assumerai mes choix.